Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring de Réparateur des Brèches, là où la vérité a franchi. En place pour le combat spirituel. Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans le 13e épisode du combat spirituel et aujourd'hui je vous propose que l'on étudie les armes du combat spirituel. J'aimerais pour commencer vous faire la lecture de quelques versets et le premier on va le trouver dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et deux autres que l'on va trouver dans le livre des Éphésiens au chapitre 6, les versets 11 et 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc à la lecture de ces versets, on voit que les armes que l'on se sert dans le combat spirituel, bien évidemment, elles ne sont pas humaines, elles ne sont pas charnelles. On ne va pas prendre un pistolet, on ne va pas prendre un char d'assaut, on ne va pas prendre un fusil ou même une épée physique, mais il est évident que ces armes sont spirituelles. Le diable étant spirituel, nos armes ne peuvent être que spirituelles. Et on vient de voir que ces armes, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc nous comprenons que nous devons utiliser des armes que Dieu met à notre disposition et que ces armes sont toutes puissantes face à notre ennemi. Alors nous allons étudier les différentes armes qui sont mises à notre disposition. Alors bien entendu, la liste que nous allons voir maintenant n'est pas une liste exhaustive, mais déjà elle représente une liste d'armes assez importante que nous devons, et peut-être même que sans le savoir, que vous utilisez tous les jours. Alors nous allons commencer cette liste avec une des armes qui est certainement la plus citée, la plus connue, peut-être même la plus étudiée. Et si je devais vous poser la question en vous demandant « citez-moi une arme biblique », eh bien je pense que vous allez penser tout de suite à l'épée de l'esprit. Et on voit cette arme notamment dans Hébreux 4, 12 qui nous parle de la parole de Dieu qui est comme une épée à double tranchant séparant l'âme de l'esprit, la jointure de la moelle et puis même capable de juger jusqu'aux pensées du cœur. Et cette arme est également citée dans le listing d'Éphésiens 6 qui parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors afin que vous ne vous fassiez pas une mauvaise image de cette épée, ça n'est pas une épée que l'on va tenir en main, les amis. Pour comprendre cela, il faut regarder ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 1er et au verset 16. C'est une partie de la description de la révélation que Jean a à Patmos lorsqu'il voit Jésus glorifié. Et il est écrit: de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Nous savons que Jésus est la parole, il est le Verbe. Et dans cette représentation, il est dit que cette arme, cette parole de Dieu, sort directement de sa bouche comme une épée à double tranchant. Donc les amis, lorsque nous parlons de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, nous parlons de la parole qui est prononcée, qui est dite. Donc dans le combat spirituel, les paroles que nous prononçons sont une arme lorsqu'elles citent la parole de Dieu. Et je vous rappelle que tout ce que vous dites dans votre cœur, l'ennemi ne peut pas l'entendre. Donc ça ne peut pas être une arme. Si vous voulez combattre, il faut que vous parliez à haute voix. Et quand vous citez la parole de Dieu, alors c'est une arme. Mais il y a une condition à cette arme, les amis. Et la condition, eh bien, c'est la seconde arme que nous allons utiliser, c'est la révélation du Saint-Esprit. Si on utilise la parole de Dieu sans en être inspiré, sans qu'elle soit révélée dans nos cœurs, sans que nous puissions nous appuyer dessus avec une ferme conviction, alors elle n'aura pas d'effet, les amis. Elle n'aura pas d'effet. Il faut qu'il y ait la révélation du Saint-Esprit pour que cette parole puisse prendre vie. Et c'est ce qui m'amène tout naturellement à la troisième arme que je veux vous partager, qui est la foi. Les amis, si on utilise la parole de Dieu, des versets bibliques, sans foi, eh bien ça n'aura pas d'effet. Et je vous rappelle quelque chose, c'est que sans révélation du Saint-Esprit, il n'y a pas de foi. Si la foi repose uniquement sur une conviction intelligente, sur un rabâchement, vous savez, quand on se répète les versets sans cesse pour s'en convaincre, alors on est dans du positivisme, on est dans de la méthode Coué, mais certainement pas dans une révélation du Saint-Esprit qui suffit juste d'une fois. La révélation du Saint-Esprit donne naissance en nous dans une conviction profonde, indéfectible, et ça, c'est la foi. Et devant cette arme, l'ennemi plie le genou. La foi, je vous rappelle, renverse les forteresses. La foi renverse les montagnes. Elle déplace les montagnes. Alors oui, l'ennemi tremble devant quelqu'un qui est animé de foi, animé de la révélation du Saint-Esprit et qui sait utiliser à bon escient la parole de Dieu. Il y a également une autre arme qui est évidente pour nous qui sommes chrétiens, c'est l'autorité du nom de Jésus-Christ. Il est évident que on ne penserait même pas prier en dehors du nom de Jésus-Christ. On a compris que, au travers du nom et dans le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance, il y a une vérité, il y a l'autorité qu'il a acquise pour nous à la croix. Il nous fait profiter de cette gloire, de cette victoire que lui-même a acquise. Il nous l'a donnée. Il nous l'a donnée. Et nous devons utiliser l'autorité du nom de Jésus-Christ. Donc, à chaque fois que nous nous positionnons devant l'ennemi dans une prière fervente dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, alors l'ennemi recule, lâche, plie le genou. Savez-vous que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont des armes puissantes devant l'ennemi? Et c'est pour cela que Paul, dans Philippiens 2, 5, nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Parce que ces armes sont la manifestation puissante de toute la vertu de Dieu. Et donc, nous allons retrouver la miséricorde, la grâce et l'humilité. On va commencer déjà avec ces trois sentiments-là qui étaient en Jésus-Christ. Et souvent, on a tendance à mélanger la miséricorde et la grâce, on a du mal, on a l'impression que c'est un peu la même chose, alors que c'est deux leviers différents. Pour expliquer, il y a une façon toute simple. On va essayer de donner une définition simple de la miséricorde. La miséricorde, c'est de ne pas donner ce que l'autre mérite. Vous comprenez ? C'est-à-dire, on prend un exemple tout simple, quelqu'un a fait quelque chose de mal et pour ce mal, il devrait mériter une correction, il devrait mériter une sentence. Voilà. Eh bien, la miséricorde, c'est de ne pas lui donner ce qu'il mérite. Et une définition pour la grâce, ce serait la grâce, c'est donner ce que l'autre ne mérite pas. C'est le deuxième levier d'une autre arme qui est le pardon. Le pardon, c'est la manifestation de la miséricorde et de la grâce de Dieu. La miséricorde, pourquoi ? Eh bien parce que l'autre nous a blessés et plutôt que de lui donner une sentence ou une condamnation, eh bien, on va pas le faire. On va pas lui donner ce qu'il mérite. Par contre, il ne mérite pas notre pardon. Il ne mérite pas notre grâce. Mais on va lui donner quand même. Alors on ne lui donne pas la sentence qu'il méritait, mais on lui donne par contre ce qu'il ne mérite pas, c'est-à-dire la grâce, c'est-à-dire le pardon. Donc le pardon est une arme, les amis, dans lequel on actionne le levier de la miséricorde et de la grâce. Et tout ça, les amis, ça doit être fait dans une autre arme qui est l'humilité. Je vous ai cité l'humilité, la miséricorde et la grâce parce qu'ils vont ensemble. On ne peut pas manifester la miséricorde, la grâce, le pardon sans humilité. C'est une marque d'humilité. Donc l'humilité est une arme puissante en Dieu. Et quand on parle des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, bien évidemment, on pense au tout premier, qui est la première qualité de notre Dieu, c'est l'amour. L'amour est une arme puissante dans le monde spirituel, contre l'ennemi. Je vous rappelle que c'est par cet amour que Jésus-Christ a vaincu notre ennemi. C'est par son amour qu'il est descendu dans les enfers pour récupérer les clés. C'est dans cet amour que le Père a redonné vie à Jésus-Christ par son Saint-Esprit après les 3 jours du tombeau. Vous comprenez, les amis, l'amour qui surpasse toute chose, c'est une arme puissante. Et puis, il y a aussi la compassion. Attention de ne pas confondre compassion et pitié. La pitié est un sentiment humain. La compassion, c'est le fruit de l'empathie manifestée dans le Saint-Esprit. Lorsque tu es animé d'empathie envers quelqu'un, eh bien, le Saint-Esprit va faire naître en toi de la compassion. Et la compassion, c'est une empathie qui se met en action et qui va créer un miracle. Ça, c'est une grande victoire. Et puis, il y a la vérité. Nous savons que la vérité est le contraire de notre ennemi, qui lui n'est que mensonge. Donc la vérité est une arme puissante contre lui. Savais-tu que le zèle est aussi une arme dans le monde spirituel ? Parce que quelqu'un qui est zélé, qui est rempli d'envie de servir le Seigneur, qui est poussé à servir dans la foi, la révélation, la parole de Dieu, dans l'amour, dans la miséricorde, dans toutes ces qualités que nous avons vues, mais mon ami, il est inarrêtable. Il est inarrêtable et l'ennemi le sait bien. Il sait très bien qu'il est très difficile d'arrêter quelqu'un qui est rempli de zèle. Alors il va utiliser un subterfuge. Il va pousser la personne dans ce qu'on appelle l'affairisme. C'est-à-dire qu'il va lui donner plein de choses à faire. Et malheureusement, le zèle peut nous conduire à ça, à faire tellement de choses que l'on se noie. Et quand l'ennemi ne peut pas t'arrêter, alors il va te pousser. Alors si tu es rempli de zèle, fais très attention à ne pas tomber dans l'affairisme. La justice est aussi une arme que l'on doit pratiquer. Il y a d'ailleurs le verset de Michée 6, 8 que j'aime énormément, qui nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est juste. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Lorsque nous pratiquons la justice, nous pratiquons les commandements de Dieu. Nous marchons dans les vertus de Dieu. Tout au moins dans une des vertus de Dieu, la justice. Nous pratiquons ce qui est droit et juste devant notre Dieu. Et l'ennemi donc est obligé de se plier à cette justice. Parce que cette justice, elle est soumise aux règles spirituelles que nous avons vues précédemment. et donc lui aussi est obligé de se plier à ses règles spirituelles. Donc les amis, pratiquez la justice. Et il y a encore une autre arme qui est la connaissance de notre salut. Si tu sais, si tu ne doutes pas, si tu es ferme dans tes convictions par rapport à ton salut, alors l'ennemi ne pourra pas venir t'attaquer sur cette position. Et lorsque tu te présentes devant lui, tu te présentes en tant qu'enfant de Dieu, ambassadeur de Jésus-Christ, citoyen du royaume de Dieu. La manifestation des dons de l'Esprit sont aussi des armes que nous devons utiliser. Paul nous encourage à chercher les dons spirituels. C'est pour une bonne raison. Ça n'est pas juste pour briller en société ou pour nous croire supérieurs aux uns ou aux autres. Non, c'est que les dons de l'Esprit sont nécessaires pour l'édification du corps de Christ et pour que l'Église grandisse. C'est pour que nous puissions avancer en maturité spirituelle. Nous avons besoin des dons de l'Esprit. Chaque fois que nous manifestons les dons de l'Esprit, nous faisons reculer le royaume du diable. La confession aussi est une arme. Nous l'avons déjà étudiée, nous en avons déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais bien évidemment, si l'on ne se confesse pas, alors l'ennemi nous tient. Donc nous devons impérativement confesser nos fautes, confesser nos péchés, nos mauvaises actions, afin de ne plus être pris dans les filets de l'ennemi. Et puis il y a toutes les formes de prière. Il y a bien évidemment la prière de combat qui va être une prière avec autorité, puissance, fermeté contre l'ennemi. Mais il y a également la prière de supplication, les prières de requête aussi. Lorsqu'elles sont guidées par l'Esprit, inspirées par l'Esprit, ce sont de véritables armes pour débloquer des situations. Le parler en langue, les amis, est une arme. Nous avons besoin de se parler en langue. Si Dieu nous permet de parler dans de nouvelles langues, ça n'est pas pour notre plaisir personnel. Là encore une fois, ça n'est pas pour faire le clown ou pour montrer que nous sommes hyper spirituels. Non, Paul nous enseigne que c'est pour nous édifier, mais que c'est aussi une puissance de Dieu dans le monde spirituel. Et pour l'avoir expérimenté X fois, des prières en langue ont un autre impact dans notre combat spirituel, notamment lorsque l'on pratique des délivrances. Et puis il y a la louange et l'adoration. Nous savons que notre ennemi était responsable de la louange lorsqu'il était dans le troisième ciel. Donc il connaît très bien l'impact de la musique, et notamment la louange et l'adoration, qui sont des armes qui le font reculer. Je puis vous assurer, les amis, que quand vous êtes fatigué, au bout du rouleau, que vous n'avez plus de force, mettez de la musique, laissez votre cœur chanter, même intérieurement, chantez. Vous allez voir que ça va débloquer des choses en vous. Et quand vous allez commencer à ouvrir la bouche, à chanter des louanges et des adorations pour notre Seigneur, vous allez voir que l'ennemi va lâcher prise. Et je vous rappelle que louer Dieu, c'est le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Et l'adorer, c'est lui rendre gloire pour qui il est. Et ça, l'ennemi ne peut pas le supporter. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast qui est un peu plus long que d'habitude, mais je ne voulais pas couper et faire deux parties sur les armes. Je voulais que tout soit ensemble afin que vous puissiez bien écouter, bien comprendre et ne pas perdre le fil. C'est très important. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel. www.reparateurdesbrèches.fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à Réparateur des Brèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.